Vous écoutez
RMC.
Dans une poignée de secondes, il sera 7h. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 4000 militaires de plus sur le terrain pour faire face à la menace terroriste. Il n'y a jamais eu autant d'attentats déjoués en France, affirme Gérald Darmanin. Quasiment 500 interpellations en une semaine. C'est le bilan des opérations Place Nette contre les trafiquants de drogue. On va y revenir. Et Israël furieux ce matin car pour la première fois, l'ONU adopte une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Ne manquez pas à 7h40 le porte-parole du syndicat de police Alliance. Il sera dans ce studio pour nous dire comment les forces de l'ordre vont nous protéger. Il n'y a jamais eu autant d'attentats déjoués en France.
Oui, c'est ce que disait hier soir sur France 2 le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après l'attentat de Moscou et le relèvement du plan Vigipirate au niveau maximum.
Il y a une menace exogène de l'extérieur comme le Bataclan. Et donc oui, nous déjouons beaucoup d'attentats en France, un tous les deux mois, organisés. La menace est forte, mais on n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme. Et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France.
4000 militaires supplémentaires donc sont donc déployés en plus des 3000 qu'il était déjà ces derniers mois dans le cadre de l'opération Sentinelle. La menace Mathis Caron, c'est donc cette branche de l'État islamique qui a sévi vendredi dernier en Russie et qui est déjà passée à l'action en France.
Oui, la dernière en date, cet attentat près du pont Bir Hakeim à Paris en décembre dernier. Un touriste avait été tué, deux autres personnes blessées. L'assaillant, un homme de 26 ans, s'est présenté comme membre de la branche État islamique au Khorassan. Avant cela, en novembre 2022, un projet d'attentat a été déjoué à Strasbourg, une semaine avant l'ouverture du marché de Noël. Cette personne interpellée pour une tentative émanant de cette même branche, confie le parquet national antiterroriste à BFM TV. Gabriel Attal a indiqué que deux autres projets d'attentat avaient été déjoué depuis le début de l'année. Le 10 janvier, un individu de 22 ans interpellé. Il envisageait plusieurs cibles, la communauté LGBT, juive ou projeté de commettre une attaque contre une boîte de nuit. Le 5 mars, un autre homme de 62 ans arrêté. Il visait une église.
Le bilan de l'attentat de Moscou s'est alourdi cette nuit à 139 morts et Vladimir Poutine a fini par reconnaître qu'il avait été commis par des islamistes radicaux. Les Russes ont parlé depuis vendredi de la piste ukrainienne. Ils continuent de faire un lien avec l'Ukraine où ils intensifient leurs offensives ces derniers jours, faisant 10 morts par exemple hier dans des frappes à Kiev. Ça aussi, c'est une première. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier soir une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. C'est la première fois depuis l'attaque du 7 octobre et le début des frappes israéliennes. Cette résolution a été votée parce que les États-Unis se sont abstenus, provoquant la colère d'Israël, inquiétude en fait pour le sort des otages. Caroline Philippe, ce vote, qu'est-ce que ça change ?
Ne pas appliquer cette résolution serait impardonnable, selon le secrétaire général de l'ONU. En droit international, ce texte est bien contraignant. Il engage donc la responsabilité des parties qui ne le respectent pas. Mais dans les faits, Israël et le Hamas risquent surtout d'ignorer cette résolution. David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques.
Dans le cas d'Israël, de toute façon, il est hors de question d'accepter le principe d'un cessez-le-feu qui soit pérenne, comme c'est prévu, mentionné dans la résolution, en tout cas comme perspective. Et du côté du Hamas, il y a manifestement, sur la question des otages, également des obstacles.
En parallèle, des négociations se poursuivent, encadrées par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis pour instaurer une nouvelle trêve en échange d'otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre. Cette résolution de l'ONU reconnaît d'ailleurs l'existence de ces pourparlers.
Emmanuel Macron félicite le très probable vainqueur de l'élection présidentielle au Sénégal, le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye, qui promet, dit-il, de rester un allié des pays étrangers qui seront, c'est ce qu'il dit, respectueux. Il est 7h04 sur RMC, quasiment 500 interpellations en une semaine. Voilà le bilan des opérations Place Nette contre les trafiquants de drogue. Il y avait déjà celle lancée à Marseille la semaine dernière, surprise d'Emmanuel Macron il y a une semaine jour pour jour. Il y en a 4 de plus depuis hier au nord de Paris, à Lyon, à Dijon et à Lille, Romain Poison.
Dans le Nord, à Lille, Tourcoing et Roubaix, 80 individus impliqués dans le trafic de drogue ont été interpellés. 70 000 euros ainsi que 2,5 kg de drogue ont été saisis. Il s'agit principalement de résine de cannabis et d'héroïne. Simultanément, à Dijon, 9 personnes ont été placées en garde à vue. Les plus de 1 000 gendarmes et policiers mobilisés sur les points de deal le resteront pendant 3 semaines minimum. Et puis, sans commune mesure avec les autres agglomérations, à Marseille, une semaine après le lancement des opérations PlaceNet, le bilan fait état de 161 personnes placées en garde à vue, 30 kilos de stupéfiants saisis, ainsi qu'un demi-million d'euros en liquide. Les opérations PlaceNet s'étendront à d'autres agglomérations dans les jours à venir, a précisé le ministre de l'Intérieur, avec pour objectif d'interpeller 850 individus identifiés en amont par les services de renseignement.
C'est le chiffre que tout le monde attend ce matin. L'INSEE, l'Institut des statistiques, dira à 7h30 à combien s'élève le déficit public pour 2023 avec, vous le savez, la crainte d'un dérapage des finances publiques. On reparle ce matin du drame de Biot il y a 8 ans dans les Alpes-Maritimes. Souvenez-vous de ces 3 pensionnaires d'une maison de retraite qui étaient morts dans des inondations avec les coulées de boue au rez-de-chaussée de leur EHPAD du groupe Orpea. Eh bien, décision de justice hier, le groupe Orpea relaxé et l'ancienne maire de Biot condamnée, Julie Brault.
Oui, plus de 8 ans après le drame, l'ancienne maire de la commune a été reconnue coupable d'homicide involontaire, condamnée à 1 an de prison avec sursis. La justice a estimé qu'elle n'avait pas appliqué son plan communal de sauvegarde, un dispositif qui aurait pu permettre d'alerter les habitants de ces violentes inondations. De son côté, le groupe Orpea lui a été relaxé. Une décision incompréhensible, dénonce David Delaupe. La grand-mère de sa femme est morte dans cet EHPAD.
Quand on est au sein d'un EHPAD, qu'on voit qu'on est en alerte orange et sachant, je le répète, que cet EHPAD avait été inondé à maintes reprises. D'en prendre les dispositions, c'était si simple de monter des pensionnaires à l'étage. Ce drame atroce de 3 personnes mortes noyées dans des conditions où elles n'ont même pas pu se défendre, n'ont même pas pu agir. Ça, c'est intolérable.
Désormais, le parquet de Grasse a 10 jours pour faire appel de la décision, un appel auquel s'accrochent les familles des 3 victimes mortes noyées au rez-de-chaussée de cet EHPAD.
Les Jeux Olympiques approchent, mais il n'y a pas encore d'emballement. Seulement 37% des Français sont impatients que ça commence selon un sondage de l'Institut Via Voice. L'Euro aussi approche en football. Dernier match ce soir avant le début de la préparation. Les Bleus qui joueront contre le Chili à Marseille au Stade Vélodrome pour faire oublier leur défaite de samedi contre l'Allemagne. Les Bleus répètent depuis samedi qu'ils ne sont pas inquiets, mais Fabrice Hawkins pour RMC, vous nous dites que quand même qu'ils se sont fait remonter les bretelles.
Réunis dans une salle le lendemain de la déroute face à l'Allemagne, les joueurs de l'équipe de France ont pu voir tout ce qui n'a pas fonctionné lors d'une séance vidéo avec Didier Deschamps. Très énervé par la prestation de ses joueurs, le sélectionneur a rappelé qu'il n'était pas possible de montrer un tel visage. Il a regretté le manque d'intensité et d'agressivité. Les Bleus et le capitaine Kylian Mbappé ont entendu le message.
C'est sûr qu'on a revu des images. Le coach nous a parlé un peu. Il avait un message à nous faire passer. Je pense qu'il est passé. Maintenant, il faut matérialiser ça par une réaction sur le terrain parce que c'est ce qui compte. Mais le coach est intervenu.
Après avoir mis le groupe face à ses responsabilités, Didier Deschamps s'est entretenu avec quelques cadres comme Mbappé et Tchouaméni qui devraient être titulaires ce soir contre le Chili. Le staff des Bleus, comme les supporters de l'équipe de France, attendent une réaction.
Oui, et on surveillera ce soir à 21h sur RMC, évidemment, en direct. On surveillera ce qui se passe en tribune au Stade Vélodrome avec Kylian Mbappé, le Parisien, qui s'attend à être sifflé par le public.
Quelle ambiance.
Oh, on est tous derrière les Bleus. Ouais. Il va être acclamé, c'est sûr. Moi, j'y crois.
Tu penses qu'il va être acclamé?
Pas certain.
Bon, eh ben, on verra ça demain.
Bilan demain matin. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
De fortes pluies attendues ce matin dans le département de l'Hérault, un département dont les sols sont secs, très secs, trop secs pour absorber cette quantité d'eau. Quels sont les risques pour les habitants et pour les cultures? Réponse dans un instant avec vous, Emma Aziza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue et vous êtes le témoin du jour sur RMC.
RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe.
Il est 7h10 sur RMC.
Le témoin RMC.
Bonjour Emma Aziza. Vous êtes hydrologue, on vous a souvent entendu parler de sécheresse, mais là on va parler surtout de la pluie précisément, parce que le département de l'Hérault est en vigilance. Vigilance jaune pour la pluie, orange pour la submersion. Et à 6h, il y a 2 risques maximum. Les vagues, donc sur le littoral, les pluies dans les Cévennes. 70 à 120 mm de pluie qui sont attendus ce matin dans les Cévennes. Est-ce que c'est exceptionnel d'abord?
Alors c'est exceptionnel pour la saison parce que en fait on s'attend plutôt à un épisode méditerranéen ou épisode cévenol quand on va avoir les Cévennes qui sont confrontées, eh bien plutôt dans une période de septembre-octobre, c'est-à-dire plutôt l'équinoxe mais qui arrive début septembre. Et là on voit très bien que ça fait plusieurs années qu'on manque de ces épisodes cévenols et méditerranéens et que par contre, ils se décalent à une période où on les attend pas du tout. Ça nous montre quelque chose, c'est que au mois de septembre, on n'a pas assez de masse d'air froid qui viennent confronter la masse d'air chaud de Méditerranée. Et c'est cette confrontation qui génère ces pluies diluviennes. Eh bien, on est en train de voir qu'il faut attendre la fin de l'hiver pour avoir cette confrontation de masse d'air. Et ça, c'est quand même un signe du changement climatique.
Et le problème, c'est que cette pluie, elle arrive sur des sols très secs. Quelles peuvent être les conséquences et quels sont les risques?
Alors, pour le moment, les pluies qui sont tombées cette nuit ne sont pas non plus exceptionnelles ni diluviennes. On a effectivement eu des pluies importantes, mais pas suffisamment. Lorsqu'elles vont tomber sur un sol extrêmement sec, il y a ce qu'on appelle un effet de battance, c'est-à-dire que l'eau va rebondir sur ces sols, les sols vont se rétracter et donc ne vont pas laisser la pluie pénétrer. Donc on va avoir un effet de ruissellement massif, c'est un des risques que l'on a aujourd'hui. Mais l'autre risque que l'on a, puisqu'on voit très bien qu'on est sur une vigilance orange au niveau vague submersion, c'est bien le fait qu'on ait des vents et une houle extrêmement forte de sud-sud-est qui vient contrer l'arrivée des cours d'eau. C'est-à-dire que tous les exutoires des cours d'eau arrivent dans un sens et le vent et la houle arrivent dans l'autre sens et surélèvent le niveau de la mer d'à peu près un mètre, donc empêchent cette eau de s'écouler. C'est dans ces zones-là qu'on a un risque maximal.
Pierre nous appelle de Montpellier, précisément, donc dans l'Hérault, bien sûr. Bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour à l'équipe, bonjour à toutes et à tous.
Pierre, vous êtes paysagiste, donc en effet, vous avez besoin d'eau, mais juste ce qu'il faut et au bon moment. Est-ce que là, d'abord, au moment où on se parle, est-ce qu'il pleut? Et est-ce que c'est une pluie suffisante pour les cultures, pour les plantations?
Alors actuellement, il est tombé à peu près une dizaine de millimètres là, okay. Cette nuit et ce matin, donc ça va, c'est des petites pluies. Mmh. Et c'est plutôt dans l'après-midi où ils annoncent des grosses pluies, il me semble. Et c'est une pluie salvatrice, très intéressante pour la nature, pour un piano phréatique. C'est vraiment ce qu'il fallait. Est-ce que ça suffira? Je pense pas. Je pense qu'il faudra encore plus de pluie. Je crois que ce week-end aussi lance de la pluie. Donc là, toutes les pluies sont bonnes à prendre, mais il faut qu'il pleuve, mais il faut toujours se concentrer sur les économies d'eau. Il faut pas relâcher la pression.
Oui, il faut pas relâcher la pression. C'est pas le moment, effectivement, de
gâcher. Non, il faut continuer à réfléchir à l'avenir, parce qu'on sait que les sécheresses, les canicules vont s'ajouter chaque année. Cette année, peut-être pas, mais il faut rester
vigilant.
Vous
avez prévu des récupérations, vous, d'eau, Pierre, dans les différentes plantations que vous faites?
Alors moi, je prends des plantes méditerranéennes, des plantes qui résistent à la sécheresse, à la canicule, essentiellement. Et ensuite, j'utilise du paillage, je fais de la permaculture. Aussi. Ouais. Toujours couvrir le sol, c'est important pour l'érosion, pour garder l'humidité. Mmh. On essaie de trouver de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour lutter contre ce changement climatique.
De s'adapter, effectivement, Pierre.
Oui, il faut continuer. Voilà.
Ouais, j'aime ce mot des pluies salvatrices. Mmh. Est-ce qu'on peut quand même voir les choses du bon côté, Emma Aziza?
Oui, clairement, quand on a ces pluies-là, on en a besoin. Là, on est en train de parler de l'Hérault, le Gard, qui sont concernés par ces pluies. Mais regardons de l'autre côté de la frontière espagnole. Si on n'a pas d'eau d'ici cet été, eh bien, une ville comme Rosas ne pourra pas accueillir 100 000 touristes. On voit à quel point Barcelone est à bout de souffle. C'est la première grande capitale européenne qui est confrontée à une telle sécheresse. Il faudrait que ces pluies puissent arriver sur ces territoires-là. Et effectivement, le problème, c'est la justesse, en fait, dans ce cycle de l'eau. C'est que, en fait, si on bascule du fait de ne pas avoir d'eau à de l'eau par des pluies diluviennes, eh bien, en fin de compte, on bascule
d'un extrême à l'autre. Et Maziza, on a eu l'habitude souvent de vous recevoir dans des moments où vous commentiez notamment la sécheresse et les nappes phréatiques qui étaient à sec. Pour la partie nord, en tout cas, de la France, on a le sentiment, pour le coup, qu'on peut plus nous parler de sécheresse, quoi. On n'a jamais vu autant de pluie.
Alors, oui, c'est vrai, mais... On est dans un contexte de changement climatique, il faut l'avoir en tête. Ça veut dire qu'on a très peu de données qui nous permettent de comprendre comment ça se passe. Si on regarde les années précédentes, on a 2018, je le répète parce qu'elle ressemble beaucoup, l'année 2018, à l'année qu'on est en train de vivre. On avait une crue de la Seine, trop d'eau, tellement qu'on avait eu à un moment donné le bassin parisien qui avait reçu plus d'eau que en 1910 quand on a eu la crue de la Seine des Parisiens, pour vous dire à quel point on avait eu trop d'eau. On avait toutes nos nappes qui étaient rechargées en France avec un excédent de 30%. C'était énorme. Et en fait, on était extrêmement confiants. Il a suffi qu'on ait des vents extrêmement secs pendant le printemps, des canicules répétées, et au mois de juillet, on atteignait un état record de sécheresse historique. Ce que je veux dire, c'est que la bascule est très rapide. Il faut tout de même comprendre qu'on doit être juste agile.
Alors, si on veut dire les choses sans boule de cristal, au moment où on se parle, Emma Aziza, sans présager de l'avenir, au moment où on se parle, Dans la moitié nord, même dans les deux tiers nord du pays, ça va.
Bah ça va, et puis même il y a trop d'eau derrière dans les Hauts-de-France. Enfin, on voit très bien que les sols sont saturés en eau. On n'a pas de problème aujourd'hui de sécheresse, très clairement. Et tant mieux, parce qu'à un moment donné, eh bien, on est à la base un pays tempéré et qui normalement a trop d'eau. Eh bien là, on retrouve une année qui ressemble un peu plus aux années normales. Donc tant mieux. Par contre, il faut tout de même être vigilant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tout de même une urgence à transformer nos villes, à transformer nos champs, et que ce n'est pas parce qu'on a à un moment donné de la pluie que l'on doit à un moment donné baisser la garde.
Mais c'est d'ailleurs ce que disait Pierre à l'instant, hein, sur le fait qu'il faut s'adapter, y compris dans les plantations. Merci d'ailleurs à Pierre pour son témoignage et merci à vous, Emma Aziza. Je rappelle que vous êtes hydrologue, bien sûr, et bien sûr, prudence dans l'Hérault pour les fortes pluies de cet après-midi et qui toujours cette vigilance orange pour les vagues submersion. 7h17.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Plus de patrouilles devant les écoles, dans les gares ou les aéroports. La France repasse en urgence attentat. Qu'est-ce que ça change au quotidien? Est-ce que les grands événements devront être annulés? Les réponses dans 20 minutes du porte-parole du syndicat de police Alliance. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec une enquête à ne pas manquer d'Amélie Rosic, l'Actu Éco avec Manu Le Chypre et puis Arnaud Demanche qui pirate le face-à-face.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu politique avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Apolline.
Vous nous parlez ce matin des questions au gouvernement qui ont lieu chaque semaine à l'Assemblée nationale. Et bien vous nous révélez sur RMC que Gabriel Attal pourrait désormais être le seul à y répondre.
Oui, Gabriel Attal, seul au front pour répondre à toutes les questions sur tous les sujets. Voilà la formule imaginée pour tenter de redonner de l'attrait et de la visibilité médiatique aux fameuses questions au gouvernement. Aujourd'hui, le mardi et le mercredi, les ministres répondent chacun sur leur sujet. Bien, l'idée, ce serait de réserver la séance du mercredi à des questions uniquement adressé au Premier ministre. La formule a été proposée par la présidente de l'Assemblée à Gabriel Attal, qui s'y montre favorable, contrairement à Elisabeth Borne, qui avait écarté l'idée il y a quelques mois. À Matignon, on veut prendre exemple sur le modèle britannique, la tradition du question time, le chef du gouvernement face aux députés. Les autres ministres continueraient à répondre le mardi. Les présidents des différents groupes parlementaires seront consultés cet après-midi. Et dans les oppositions, bien, on ne voit pas tellement d'obstacles à cette nouvelle formule. La droite y est favorable, le RN aussi. À gauche, socialistes et insoumis doivent consulter leurs troupes, mais plusieurs élus contactés bien, n'y voient pas vraiment de problème, même si ça va être l'Attal show, ironise un député. Difficile de s'opposer à l'idée que le Premier ministre vienne répondre. Oui, il va faire de la com, dit un autre, mais attention à l'effet déceptif si les réponses sont creuses. Le constat partagé, y compris dans la majorité, c'est surtout que cela ne peut que remplir l'hémicycle, dont tout le monde voit bien qu'il est de plus en plus déserté ces dernières semaines.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosy.
Bonjour.
Manu Le Chypre.
Bonjour.
Arnaud Demange. Bonjour à tous les trois. Amélie, ce matin, on part au Chili avec vous.
Oui, pour venir en aide à la petite Emma qui fêtera bientôt ses 5 ans. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va faire un petit tour du globe. Son père, Mathieu, est français. Sa mère, Maria, est chilienne et allemande. Et leur fille, Emma, est donc chilienne de sol et française de sang, on va le dire comme ça. Sauf que pour l'instant, elle n'a toujours pas de passeport tricolore et ils en ont besoin parce que la petite famille part s'installer en Europe dans moins de 2 mois. Mathieu a transmis toutes les infos nécessaires à l'ambassade de France. Le délai normal est de 8 semaines pour inscrire Emma sur les registres de l'état civil français. Première étape avant de demander ses papiers. Ça va faire 1 an et il n'a toujours rien.
J'ai reçu un mail me disant qu'il y avait du retard toujours dû au Covid. Moi, ça me fatigue. 1 an pour un dossier de 12 pages, c'est épuisant. Et en plus, je veux bien qu'il y ait des problèmes avec la pandémie. Bon, on est en 2024, la pandémie s'est passée depuis quelques temps quand même. Enfin, à moins qu'il y ait 1 million de Français qui vivent au Chili et qui veulent tous rentrer en Europe, c'est quand même un peu long.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible?
Alors, Solène Leroux a contacté l'ambassade de France au Chili pour comprendre. Qui n'a pas été en mesure de nous expliquer pourquoi, mais je cite, ça ne doit pas faire oublier, les délais importants dans ce dossier ne doivent pas faire perdre de vue les nombreux efforts effectués dans le cadre du projet de registre d'état civil électronique, nous dit
une
diplomatique. Si, si. Et effectivement, c'est vrai, il y a 3 ans, l'État a lancé la dématérialisation des fichiers, une modernisation qui a justement pour objectif, je vous le donne en mille,
de simplifier et d'accélérer les démarches pour les usagers. Bingo. À terme, du coup, en tout cas, évidemment.
Et pour Emma, du coup, ses parents, ils doivent recommencer toute la procédure ?
Alors, heureusement, non. Quelques heures après notre mail à l'ambassade de France au Chili, l'acte de naissance d'Emma a enfin été transcrit. Et c'est grâce à la députée des Français de l'étranger, Éléonore Carwa, qu'on a eu l'explication. Un manque d'effectifs au service consulaire à Santiago, la capitale, constaté par l'élu en septembre dernier. Elle a demandé la création d'un poste supplémentaire et c'est chose faite. Très récemment, nous dit-on. La famille d'Emma a donc rendez-vous désormais dans 10 jours, parce que c'est pas fini évidemment. Rendez-vous dans 10 jours pour cette fois-ci demander le passeport, avec un délai annoncé de 5 semaines. On espère cette fois-ci que le délai sera tenu.
Et on rappelle donc l'adresse pour vous contacter, RMC avec vous, @rmc.fr et France-Chili sinon.
Hein, voilà,
ce soir, pour mettre tout le monde, d'accord, ça c'est du foot et c'est à 21h sur RMC. L'actu écoute ce mardi, Manu, c'est le coup de pression de Bruno Le Maire sur EDF. C'est du jamais vu, le ministre de l'économie, il s'est invité au comité exécutif d'EDF hier matin pour surveiller les comptes.
Oui, alors dit comme ça, c'est pas forcément très spectaculaire.
Bah si, c'est pareil quand même déjà, exécutif. C'est rare qu'une entreprise ait le ministre de l'économie qui vienne vérifier les comptes.
Alors,
direct.
Il faut rappeler que dans une grande entreprise, vous avez le conseil d'administration qui se réunit à peu près une fois par an. Là, c'est les actionnaires qui décident de la stratégie. Le comité exécutif, c'est les patrons de l'entreprise au quotidien qui dirigent. Et donc, c'est normal que le ministre de l'économie soit représenté au conseil d'administration. C'est l'actionnaire, puisque EDF est 100% public. Mais qui viennent sermonner les patrons d'EDF, c'est quand même effectivement une première. Effectivement, Bruno Le Maire, il a décidé de vérifier tout ça parce que il s'inquiète de la difficulté d'EDF à tenir le calendrier fixé pour la relance du nucléaire.
Et il faut dire qu'il y a des raisons de s'inquiéter.
Ben oui, parce qu'en janvier, EDF annonçait déjà que son chantier de centrale nucléaire au Royaume-Uni, vous savez, Hinkley Point, pourrait connaître jusqu'à 6 ans de retard et un quasi-doublement du coût, et un scénario similaire se dessine pour le programme de 6 EPR2 porté par le gouvernement français, dont la facture provisoire aurait déjà augmenté de 30% à 67 milliards, et ce n'est pas fini.
C'est
puisque
pas fini.
Les factures...
on sent bien que
c'est
ça
pas
pourrait
fini, puisque
encore.
EDF, ils ont des fournisseurs. Ouais. Et les factures de ces fournisseurs gonflent, elles aussi, à vue d'œil. C'est le cas, par exemple, de celle d'Eiffage, qui s'occupera du génie civil. On ne parle pas de Flamanville, 12 ans de retard et toujours pas en service. Donc là-dessus, c'est sûr que tout laisse craindre que EDF, une fois de plus, ne tienne ni ses délais, ni ses coûts. Allez, quand même, une bonne nouvelle.
Merci,
presque pour Amélie. EDF va tenir quand même un engagement sous la pression de Bruno Le Maire, c'est de renégocier les contrats qui ont été signés avec les petites PME au moment où les prix de l'électricité étaient au plus haut pendant la crise énergétique.
Vous voulez dire que Bruno Le Maire a presque fait du RMC avec vous.
Il
s'y met aussi.
Je le remercie pour tous nos auditeurs s'il veut faire un petit stage d'observation au service. C'est avec grand plaisir qu'on l'accueille.
Ça se passe comme ça, ça fera un peu de dossier en moins.
Arnaud de Moros.
Oui.
Invité ce matin, c'est l'ancien directeur de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri, qui est désormais numéro 3 sur la liste du RN aux européennes. Pas trop l'esprit, je crois.
C'est peut-être pas la chanson préférée de votre invité, effectivement. En même temps, je dis ça, je le connais mal. D'ailleurs, quand le rédac chef m'a annoncé que ce matin, l'invité, c'était Leggeri du Rassemblement National, je pensais qu'on aurait Jordan Bardella. C'est lui, Leggeri du RN. Donc là, c'est Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, l'agence européenne de garde frontières et de garde côte. Pour ceux qui connaissent pas, on dirait un peu Jean Castex, mais avec des cheveux et sans l'accent. Alors, pas confondre. D'un côté, il y a Frontex qui veut empêcher les migrants d'entrer. Et de l'autre côté, il y a Castex qui voulait empêcher les Français de sortir. C'est le bon moyen mnémotechnique. Fabrice Leggeri a donc dirigé cette agence de garde-côte avec un petit maillot rouge, une petite bouée. C'est un peu la Pamela Anderson française. Et c'est sous sa surveillance que des milliers de migrants sont rentrés en Europe entre 2015 et 2022. Alors, ils ne voulaient pas les laisser passer, mais ils sont passés quand même. Fabrice Leggeri, il ne faut pas qu'il postule comme gardien de but de l'équipe de France, si vous voulez. Il ne serait peut-être pas pire que Brice Samba vendredi soir face à l'Allemagne. On en a pris deux, ça va. Ouais. Donc Fabrice Leggeri, c'est la prise de guerre du RN. Ils en sont super fiers. C'est quelqu'un de respecté, qui connaît bien ses dossiers, qui connaît parfaitement le fonctionnement du Parlement européen, compétent, assidu, travailleur. Autant vous dire qu'il va se sentir bien seul au RN. Il va être là. Les copains, vous êtes où ?
Ce matin, il y a réunion inter-état de la sous-commission des autorisations de pêche de crustacés en mer Baltique. Où est-ce que vous êtes ? Allô, Jordan ? T'es où ? Bah, à Paris, où est-ce que tu veux que je sois ? Ah oui, merde, c'est vrai ! Il vient jamais. Ah, on s'est encore gouré. Rendez-vous donc avec Fabrice Leggeri à
8h30, donc l'ancien patron de Frontex, désormais numéro 3 de la liste RN aux européennes. Et on vous retrouve avant ?
Eh bah ben oui, à 8h20.
Allez, à tout à l'heure, 8h20, pour le release.
Détendez-vous.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Élise Dangean, bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Quelle efficacité des opérations Place Net qui se multiplient en France. Déjà 500 interpellations depuis une semaine, mais pas suffisant à endiguer le trafic de drogue. C'est notamment le cas dans la banlieue de Grenoble, où les dealers se sont installés devant les grilles d'une école maternelle. Le déficit de la France publié ce matin, mais il faudra attendre pour connaître les nouvelles pistes d'économie du gouvernement. Et puis pas le bon nom, le bon genre ou la bonne origine. Les jeunes s'auto-censurent de plus en plus dans leur recherche d'emploi. C'est ce que nous apprend une étude qu'RMC vous dévoile ce matin.
Près de 500 personnes interpellées depuis le début des opérations anti-drogue XXL.
Des interpellations dans toute la France, car après Marseille la semaine dernière, ce sont désormais la région parisienne, Lyon, Dijon et Lille qui sont ciblées. Ces opérations vont mobiliser 15 000 gendarmes, policiers et douaniers toute la semaine. Mais alors que se passera-t-il après leur départ à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble? Le trafic a déjà repris et il s'est même rapproché d'une école maternelle. 5 de ces agents exercent leur droit de retrait depuis vendredi. Reportage sur place avec Vincent Chevalier.
Nichée au milieu des tours, l'école est sous surveillance. Des guetteurs filtrent les accès. Un cadre de travail compliqué pour les travailleuses du périscolaire, selon Yann Selton, délégué CGT à la ville d'Échirolles.
Ils sont proches des murs, ils peuvent être amenés à cacher de la drogue à proximité des fenêtres. Et c'est ça qui les perturbe.
Un sentiment d'insécurité personnelle, mais aussi une crainte pour les maternelles.
Ils étaient aussi assez préoccupés par rapport aux images que les enfants ils peuvent avoir en fait de tout ça.
Une opération Place Net a pourtant été menée il y a 2 semaines dans le quartier. Des interpellations, des saisies et encore pas mal de travail à faire, selon Amandine Demort, la maire d'Échirolles.
Je suis très contente de ces opérations, mais aujourd'hui, il faut les multiplier parce que force est de constater que ça n'a pas résolu le problème sur ce secteur.
À l'échelle communale, tout est mis en place, mais les moyens sont limités. Aujourd'hui, l'élu appelle donc le gouvernement à l'aide.
Des moyens, des effectifs supplémentaires de police nationale qui soient plus présents sur le secteur. Voilà, qu'on tape du poing sur la table. Non, on ne touche pas à l'école de la République.
Selon la maire, des garanties ont été données par la préfecture de l'Isère. En attendant, les agents maintiennent leur droit de retrait au moins jusqu'à demain.
Forte mobilisation aussi après le rehaussement du plan Vigipirate à son maximum. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le déploiement de 4000 militaires supplémentaires dans le cadre de l'opération Sentinelle, ainsi qu'une présence policière renforcée, notamment aux abords des écoles. Alors c'est évidemment une conséquence de l'attentat à Moscou qui a fait 139 morts. Et pour la première fois, Vladimir Poutine a reconnu la responsabilité de l'État islamique qui a revendiqué à plusieurs reprises ce massacre. Mais le président russe continue d'entretenir l'ambiguïté sur l'implication de l'Ukraine.
Nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux. Nous voyons également que les États-Unis essayent de convaincre d'autres pays du monde qu'il n'y a pas de traces de Kiev dans cet acte de terrorisme. Cette atrocité pourrait être le maillon d'une chaîne de tentatives de la part de ceux qui sont en guerre contre notre pays depuis 2014 par l'intermédiaire du régime néo-nazi de Kiev. Et les nazis, comme on le sait, n'ont jamais hésité à utiliser les moyens les plus sales et les plus inhumains pour parvenir à leur fin.
7h34 sur RMC. Le déficit public de la France pour 2023 s'élève donc à 5,5% du PIB. C'est officiel. L'INSEE vient de publier ces chiffres et c'est comme prévu bien au-delà des prévisions du gouvernement. Alors action, réaction, pas vraiment. Il va en effet falloir trouver de nouvelles économies, Jérémy Trottin, mais pas question d'aller trop vite au risque de faire monter la colère.
Oui, au-delà de la pédagogie pour expliquer les raisons de ce dérapage, le gouvernement ne devrait pas aujourd'hui se précipiter à annoncer de nouvelles économies. Rien avant le 9 juin, explique une conseillère ministérielle. Comprendre, pas de mesures impopulaires avant les prochaines élections européennes. 10 milliards d'économies ayant déjà été annoncées il y a plusieurs semaines. Et pourtant, le débat existe déjà au sein de la majorité. Je ne comprends pas comment on a pu se mettre dedans à ce point sur les impôts, regrette un parlementaire, pour qui, quand on les augmente pour les milliardaires, on finit toujours par les augmenter pour les plombiers. L'urgence serait donc de repousser la douloureuse à plus tard et dans le cadre de la préparation du budget 2025. Il faut arrêter de mettre des sujets dans la nature et travailler maintenant avec les parlementaires pour trouver 20 nouveaux milliards d'euros, explique-t-on du côté de Bercy.
Et alors que le chômage repart à la hausse, les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'auto-censurer lorsqu'ils cherchent un emploi. C'est ce que nous apprend une étude CSA pour Sanofi et Mosaïque RH que l'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur RMC. 73% des 18-24 ans ont déjà renoncé à candidater à un poste car ils pensaient tout simplement n'avoir aucune chance d'être sélectionnés par manque de confiance en eux, mais pas que, aussi par crainte de jugement discriminatoire. Ameline Lafchin.
Un seul poste, plusieurs candidats et pour Linné Hanan, des critères de sélection différents pour tous.
Physiquement, si on est belle, je pense que ça joue. Si on est étranger, je pense que ça joue aussi.
La société dans laquelle on vit, elle est basée sur le privilège. Et du coup, malheureusement, d'autres sont désavantagés parce qu'ils font pas partie d'une catégorie précise.
D'après cette étude, 71% des 18-24 ans considèrent qu'une personne issue des minorités a moins de chances d'être recrutée. Alors à 19 ans, Lynn encore étudiante s'est déjà préparée aux discriminations au travail.
Je vis en banlieue et je suis aussi une femme et une personne de couleur. Je suis obligée de subir ça. Les minorités doivent toujours se surpasser pour pouvoir prouver qu'ils sont assez compétents dans ce qu'ils font.
Conséquence, plus de 70% des jeunes renoncent à certaines offres d'emploi, comme l'explique Valérie Alexandre, directrice du pôle employabilité chez Mosaïque RH.
Les candidats n'osent pas candidater sur certains postes, ou alors ils vont candidater sur des postes qui sont inférieurs à leur niveau de compétence. C'est vraiment un manque de confiance en soi.
Et certains vont même jusqu'à dissimuler leur adresse ou leur conviction religieuse pour présenter leur candidature.
Et vous d'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir sur vos origines, votre adresse, votre âge, votre nom, sur votre CV de peur de ne pas être pris? Est-ce que d'ailleurs vous avez parfois renoncé même à candidater ou vous êtes auto-censuré pour des demandes de job, des candidatures dans des travails? Vous n'hésitez pas, vous venez nous le raconter, on attend vos témoignages au 32-16.
7h37 en football, les Bleus affrontent ce soir le Chili au stade Vélodrome pour une rencontre amicale très attendue après leur déroute samedi face à l'Allemagne. Kylian Mbappé ne s'attend d'ailleurs pas à un accueil très chaleureux, surtout à Marseille, mais le capitaine des Bleus se montre serein et compréhensif.
Je vais juste me concentrer pour jouer. Peu importe l'accueil qui me sera réservé, je vais donner le meilleur de moi-même pour amener une réaction. Pour être honnête, je comprendrai si je suis sifflé. Il y a un classico dimanche, je suis joueur du PSG. Donc si je suis sifflé, c'est la vie. Je prendrai pas ça personnellement et ça changera pas ma manière de jouer. Mais si je suis pas sifflé, je serai agréablement surpris. Comme quoi, des fois dans la vie, on peut avoir des bonnes surprises.
France-Chili à suivre dès 21h sur RMC. Puis ce soir, les Bleus connaîtront leur troisième adversaire pour l'Euro entre la Pologne et le Pays de Galles qui s'affrontent à 20h45.
Et puis le Quintet, 13h55 sur l'Hippodrome de Saint-Cloud.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 8, Concerto. Leur outsider, c'est le numéro 7, Winterland. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal des 10 engins. Il est 7h38 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
La France au plus haut niveau de Vigipirate, niveau urgence attentat, 4 mois du plus grand événement planétaire, les JO. Est-ce qu'il faut maintenir le parcours de la flamme olympique et la cérémonie d'ouverture sur la Seine? On va changer cette alerte maximum. Qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien? Les réponses du porte-parole du syndicat de police Alliance, c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Rudy Manin, vous êtes le porte-parole du syndicat de police Alliance. La France est donc passée depuis 24 heures en urgence attentat après l'attaque terroriste de Moscou. C'est donc le plus haut niveau de vigilance. En termes de surveillance, vous, force de l'ordre, quel va être votre rôle? Qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? On va vous voir davantage.
Oui, on peut considérer que vous allez nous voir davantage et je pense que ça va pas déplaire déjà à la population. C'est toujours intéressant de voir davantage de policiers. Nous, vous savez, ça fait 15 ans, les policiers, depuis le Bataclan, on a jamais quitté l'idée qu'on avait un risque d'attentat. Et tous les jours, quand on commence notre travail, on sait qu'il peut y avoir un risque d'attentat en France. C'est notre quotidien aujourd'hui, depuis tout ce qui s'est passé à travers ces nombreuses années. Alors aujourd'hui, effectivement, on est au plus haut niveau du plan Vigipirate, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu plus présent dans les écoles, dans les salles de concert, dans les gares, dans les aéroports. On va faire ce qu'on peut aussi avec les moyens que l'on a, mais vous comprenez bien que le danger est véritablement présent en France aujourd'hui et les policiers, on doit y faire face avec beaucoup de détermination.
Le danger est présent, c'est aussi ce que disait hier le ministre de l'Intérieur. Le problème, Rudy Manin, c'est qu'on se dit la semaine dernière, c'était les opérations XXL, un coup à Marseille, désormais à Lille, à Lyon, peut-être être demain à Bordeaux. Dans le même temps, il va y avoir la cérémonie des JO. Il y a cette menace attentat. Est-ce qu'on a les moyens de faire face à tout cela en même temps?
Écoutez, je ne sais pas si on a les moyens. En tout cas, on va être tous sur le pont. Hein. Vous savez qu'il y a 140 000 fonctionnaires au ministère de l'Intérieur et les 140 000 vont travailler pendant la période des JO. On va être mis à forte contribution avant les JO. Vous avez parlé tout à l'heure, en titre, j'ai entendu, de la flamme olympique. Effectivement, il y a des gros dispositifs qui vont avoir lieu autour de la flamme olympique. Après, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas céder à la terreur, parce que céder à la terreur, ça veut dire qu'on leur donnerait raison. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les policiers, on va faire le maximum. De toute façon, on va être au maximum de nos capacités. Les militaires vont venir aussi nous prêter main forte. Je ne vois pas ce qu'on pourra faire de plus en termes d'effectifs, parce que tout le monde sera sur le pont. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se déroule bien. Et ce qu'on veut avant tout, c'est protéger nos concitoyens.
Alors, en termes d'effectifs, Rudy Manage, je voudrais qu'on accueille Max, qui nous a appelé au 32-16 depuis le Puy-de-Dôme. Vous êtes à Maringue, Max. Et justement, sur la question des effectifs, vous appeliez parce que vous vous inquiétez de la question du recrutement de tous ceux qui viennent normalement pour assurer la sécurité, les vigiles privés, quoi.
Oui, tout à fait. Bonjour Apolline.
Bonjour Max.
Bonjour à toute l'équipe et bonjour à Rudy. Je suis bien d'accord avec lui. Mmh. Moi, je peux vous dire que ça craint fortement.
Vous êtes un ancien fonctionnaire de police, hein, si je ne m'abuse, Max.
Oui, tout à fait, moi. Oui, tout à fait, Apolline. J'ai vécu le bicentenaire de la Révolution, le sommet de l'Arche, beaucoup d'activités.
De grands événements.
Étant voyage officiel. Mmh. Voilà. Et donc, c'est très, très dur à organiser, ça, c'est sûr. Mais là, quand on vous donne tous les effectifs qui vont être mis en place, ça me fait un peu peur parce que il y a quasiment les trois quarts de ce qui va être déployé qui seront pas du tout prêt à affronter un événement comme ça. Mmh. Parce que les policiers et les gendarmes sont formés pour ça. Mais tous ces agents de sécurité qui ont été recrutés et formés en une semaine, voire 15 jours, c'est pas du travail. Il y a beaucoup. Moi, pour moi, il y a vraiment un fort danger.
Pour vous, l'inquiétude.
Par contre, je suis d'accord avec. Pardon, Pauline. Je suis d'accord avec ce que disait Rudy. C'est que, bon, on ne peut pas céder au chantage, mais c'est dangereux.
Pas céder à la peur,
dangereux.
Mais cette question, Max, je voudrais que Rudy Mana puisse vous répondre précisément là-dessus. La question des agents de sécurité, on sait qu'ils vont être très nombreux. Enfin, d'ailleurs, on a du mal à les recruter aujourd'hui.
Oui.
Hein.
Les
petites annonces ne trouvent pas preneur, ce qui veut forcément dire qu'on sera un peu moins exigeant.
Ben, il est fort probable. Après, c'est pas les policiers qui s'occupent de ce recrutement, mais effectivement, il en était prévu 20 000. Je crois qu'ils ont à peine recruté 11 000 agents de sécurité. C'est un petit peu compliqué, effectivement, d'en trouver. Et j'espère en tout cas qu'on va pas être un peu moins regardant, parce que là, on n'a pas le droit de ne pas être regardant, parce qu'ils vont quand même avoir un rôle assez important. Ils vont être situés dans des endroits qui peuvent être stratégiques. Et il vaut mieux en avoir moins, mais des gens dont on est sûr, qu'en avoir le nombre avec des gens dont on n'est pas sûr. Vous savez, c'est la sécurité de nos concitoyens, la sécurité des policiers et des gendarmes engagés qui va être présente là. Donc moi, ce que je demande, c'est que tout soit bien vérifié. C'est pas possible de prendre des gens qui pourraient nous mettre en danger. Ça, c'est une certitude.
Ces gens qui sont censés effectivement nous sécuriser et qui pourraient apparaître presque comme nous mettant en danger, comme vous dites, Rudy Mana. Merci Max. Rudy Mana, une question aussi sur le week-end de Pâques, le week-end prochain. Est-ce que vous avez reçu des consignes particulières, notamment pour la protection des églises?
Bien sûr qu'il y aura des consignes particulières, mais vous savez, Apolline, j'ai presque envie de vous dire que tous les jours, on reçoit des consignes particulières, parce que malheureusement, aujourd'hui, en France, on se rend compte que tous les jours, il y a des choses qui arrivent. Donc, en fait, on est tous les jours extrêmement vigilants. Les policiers se lèvent avec l'idée dans la tête d'aller travailler avec un danger potentiel. On est entraîné pour ça. On est formé pour ça. Et j'espère qu'on arrivera à maintenir cette paix, cet équilibre dans le pays. Et croyez bien qu'on va tout faire pour éviter le moins de danger.
Il y a beaucoup de j'espère dans vos réponses, Rudy Mana. Ça ne me rassure pas beaucoup, je vous avoue.
Je vous avoue, Apolline, que si j'en avais la certitude, ça serait un plaisir pour moi de vous dire je suis sûr. Mais vous savez, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des certitudes. Alors, on espère. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que les policiers sont toujours aussi motivés, sont toujours aussi volontaires et sont toujours aussi déterminés.
Bon,
c'est la seule chose que je peux vous garantir.
C'est déjà
aujourd'hui.
C'est déjà pas mal, Rudy Mana. Non, une question encore aussi sur les arrestations, parce qu'on a beaucoup de chiffres sur les arrestations, mais peu sur ce qu'ils deviennent après les arrestations. Gérald Darmanin a donné le chiffre de 496 arrestations depuis une semaine. semaine. Ça, c'est pour les opérations XXL, Place Net, qui ont eu lieu à Marseille ou encore à Lille et à Lyon. Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent ensuite ?
Ben non, vous savez, après, nous, une fois qu'on a mis à disposition de la justice est indépendante et donne les...
Mais vous suivez, j'imagine, j'imagine que vous suivez.
Oui, on suit.
Malade.
Alors, bon, vous imaginez bien que les 496 qui ont été interpellés ne sont pas en détention provisoire. Ça, c'est une certitude. Il y en a beaucoup qui sont ressortis. Il y en a beaucoup qui sont sous contrôle judiciaire. Il y en a quelques-uns qui sont partis en détention préventive. C'est le quotidien des policiers, ça, malheureusement, de travailler, d'avoir des individus qu'on a interpellés la veille, revenir le lendemain sur les mêmes lieux d'interpellation. Malheureusement, c'est notre quotidien, c'est comme ça, on a l'habitude de travailler comme ça, et puis il faut aussi tirer notre chapeau à certains magistrats, parce que franchement, ils travaillent aussi dans des conditions compliquées, avec peu de place en prison et assez peu de moyens, il faut le dire aussi.
Merci Rudy Mana d'être passé par RMC. Vous êtes le porte-parole du syndicat de police Alliance. On retient que vous espérez que vous pourrez faire face effectivement à toutes ces menaces. Merci à vous, 7h48.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, tout autre chose, ce sera expliqué, nous, avec vous, Nicolas.
Et je vous explique pourquoi les États-Unis ont finalement lâché Israël. Ils ont laissé passer hier une résolution qui appelle à un cessez-le-feu à Gaza.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
7h49, le bonus RMC. Le bonus de Charles, le rappeur soprano, retrouve sa place de personnalité préférée des enfants.
Quand j'ai mal à la vie, quand je vis sous la...
Oui, l'idole des jeunes, en tout cas des 7-14 ans, selon le sondage annuel du journal de Mickaël. L'an dernier, Soprano s'était fait chipper sa première place par Olivier Giroud, qui redescend au 6e rang cette année. Sur le podium, on trouve aussi Antoine Griezmann et Thomas Pesquet. En fait, si on résume le top 10, on peut dire que les enfants et les ados aiment le foot et la musique. On trouve donc Griezmann, Mbappé, Giroud dans le top 10, ainsi que Soprano, Big Flo et Oli et Vianney. La seule femme dans ce top 10, c'est la chanteuse Angèle. À la 8e place. Quant à Soprano, tiens, on pourra en reparler très vite puisque son nom circule pour accompagner l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Ce sera le 8 mai prochain. On en est qu'au stade de la rumeur pour l'instant.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une première résolution sur Gaza. C'est d'ailleurs la première fois depuis le mois d'octobre. L'ONU exige un cessez-le-feu immédiat.
Oui, il y avait depuis la fin de la semaine dernière un consensus à l'ONU pour demander à Israël de cesser les bombardements sur Gaza. Encore fallait-il trouver les mots pour l'écrire. En fin de semaine, les États-Unis avaient proposé un premier texte, mais la Russie et la Chine l'avaient rejeté en le jugeant trop ambigu. Les 10 pays membres non permanents du Conseil de sécurité ont alors passé tout le week-end à essayer de formuler une autre demande de cessez-le-feu qui puisse cette fois convenir à tout le monde. Et hier, surprise, les États-Unis se sont abstenus, si bien que la résolution a été adoptée, 14 voix pour, dont la France, et une seule abstention, les États-Unis.
Que dit ce texte ?
Alors, il exige un cessez-le-feu immédiat à l'occasion du Ramadan, même si le Ramadan, en réalité, a déjà commencé il y a 2 semaines. Il exige aussi la libération immédiate et sans condition de tous les otages. La résolution réclame enfin la levée de tous les obstacles à l'entrée de l'aide humanitaire. Les Américains estiment que le cessez-le-feu pourrait rentrer en vigueur dès que le Hamas aura libéré un premier otage. Le Hamas, lui, se félicite de l'adoption de cette résolution. Il se dit prêt à engager immédiatement un processus d'échange de prisonniers, mais les Israéliens, eux, sont furieux. Ils estiment que cette résolution nuit à leurs efforts pour libérer les otages. Ils sont en réalité surtout furieux d'avoir été lâchés par les États-Unis. La France, enfin, salue cette résolution qu'elle a votée et qui met fin à un silence jugé assourdissant. Paris appelle à aller plus loin maintenant, vers un cessez-le-feu permanent et vers l'ouverture de négociations en vue d'une solution politique avec 2 États, mais on n'en est pas là.
Est-ce qu'Israël est obligé d'appliquer cette résolution ?
Alors théoriquement oui, mais en réalité pas du tout. Les décisions du Conseil de sécurité sont contraignantes et tous les pays membres sont censés les appliquer et les faire appliquer sous peine de sanctions. La demande d'un cessez-le-feu immédiat devrait donc théoriquement aboutir à un cessez-le-feu. Mais dans les faits, depuis 1945, l'ONU a voté 1500 résolutions sur ce conflit et des dizaines n'ont pas été suivies d'effet. Le journal israélien Haaretz a compté au moins 90 résolutions qui ont été violées par Israël. Si les combats devaient se poursuivre, ça en ferait une de plus.
Mais ce vote, il montre tout de même un tournant de la politique américaine.
Oui, et c'est important. Les Américains envoient un message aux Israéliens. Ils leur disent « ça suffit ». Ils leur demandent de ne pas se lancer dans la bataille de Rafah. Rafah, c'est la grande ville ville tout au sud de la bande de Gaza, la seule où l'armée israélienne n'est pas encore entrée. Et c'est là que se massent 1,5 million de personnes, tous ceux qui ont fui les combats dans les autres villes. Les Américains ne veulent pas d'une nouvelle bataille sanglante avec des pertes civiles. L'administration Biden est aussi de plus en plus préoccupée par les rapports sur la malnutrition, voire la famine dont souffrent les Palestiniens de Gaza. Joe Biden fait donc pression directement sur Benjamin Netanyahou pour que cette bataille de Rafah n'ait pas lieu, mais les Israéliens continuent à la préparer.
Et pendant ce temps-là, il y a une autre bataille qui est en cours.
Oui, ça fait maintenant une semaine que Tsahal et le Shin Bet, donc l'armée et les services de renseignement, mènent des combats à l'intérieur de la ville de Shifa, de l'hôpital, pardon, de Shifa. C'est le plus grand hôpital de la ville de Gaza. Il avait déjà été investi par l'armée en novembre, qui avait découvert quelques armes et quelques tunnels. Mais depuis une semaine, c'est de nouveau une opération de très grande ampleur qui est en cours. L'armée israélienne affirme avoir tué 140 terroristes et 650 hommes armés ont été arrêtés, dont de très importants chefs du Hamas, le numéro 2 des brigades du Nord, ou bien encore le chef des tunnels du nord de Gaza. On n'a aucune image de ces combats meurtriers qui se déroulent donc à l'intérieur d'un hôpital. On ne peut que les imaginer, mais c'est sans doute militairement le plus grand succès israélien en 5 mois de guerre. Et tout cela donc au moment où on demande aux Israéliens de cesser les combats.
Les explications de Nicolas Poincaré tous les jours à 7h50 en direct sur RMC et à tout moment sur l'appli RMC. Dis donc, vous allez porter chance.
Oui.
Mais oui, Nicolas, parce que ça y est, c'est l'alerte, vous l'avez entendu. C'est l'alerte coffre. Je vous avais prévenu, elle pouvait tomber à tout moment. L'alerte coffre, vous avez donc 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 7-32-16 et peut-être pouvoir ouvrir le coffre avec nous vendredi. Il y a quoi dans ce coffre, Charles ?
Eh bien, vous aurez, si vous êtes tiré au sort, 2500 euros et ensuite vous pourrez les remettre en jeu, ouvrir le coffre à l'intérieur, soit une semaine de vacances, soit 50 000 euros.
50 000 euros à gagner toute la semaine. Restez bien vigilants. Vous avez donc 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 7-32-16 et l'alerte peut retomber à tout moment. Il est 7h57. À tout de suite pour la météo.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.